Aujourd'hui, on plonge dans un dossier vraiment fascinant de Jazz Magazine qui est consacré à Michel Petrucciani. Bon, ceux qui suivent un peu le milieu du jazz connaissent déjà son génie absolu au piano et bien sûr son histoire avec l'ostéogénèse imparfaite, la fameuse maladie des os de verre.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui est génial avec ces sources, c'est qu'elles jettent vraiment une lumière inédite sur l'origine de cette rage de vivre incroyable qu'il avait.
Et ça commence très fort avec une anecdote fondatrice. Il est tout petit, il regarde Duke Ellington à la télé et il est complètement fasciné par le son du maître.
Ah oui, l'histoire du piano joué.
Exactement. Sa réaction immédiate, c'est qu'il se tourne vers le petit piano jouet qu'on venait de lui offrir et il le fracasse, purement et simplement.
Juste parce que l'instrument ne reproduisait pas le vrai son qu'il venait d'entendre.
Bah oui, c'est fou.
C'est une réaction hyper viscérale qui annonce d'emblée la couleur, quoi. Enfin, l'intransigeance de l'artiste. Faut imaginer un peu le contexte de l'époque. Il grandissait avec une éducation musicale classique extrêmement stricte.
Donc la rébellion s'est installée très vite, en fait.
Ah oui. Dès l'âge de 8 ans, il tenait tête à sa professeure de piano avec un aplomb pas possible. Dès qu'elle s'attardait sur des détails de discipline qu'il trouvait futiles, il répliquait avec une ironie mordante. Il voyait déjà la musique totalement autrement.
Une vraie carapace qu'il s'est forgée super tôt. Mais dans le dossier, il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le rôle de son père, Tony.
Le fameux kit de batterie miniature.
Voilà, c'est ça. Avant même de le mettre sérieusement au clavier, son père a l'idée de lui fabriquer une petite batterie. Et l'objectif initial, c'était purement thérapeutique.
Il s'agissait de l'obliger à utiliser les pédales pour muscler ses jambes. C'est brillant parce que, au-delà de l'aspect médical, cette batterie a organiquement infusé en lui le sens du rythme.
Les fondations même du swing.
Tout à fait. Au lieu de subir une thérapie purement clinique et rébarbative, il en a fait le socle de son expression artistique.
C'est une métaphore tellement puissante sur la résilience au final. Réussir à transformer une contrainte imposée par le corps en un vrai moteur créatif. Nos propres limitations peuvent parfois devenir nos meilleurs atouts si on change d'angle d'approche.
C'est clair. Et cette dynamique un peu bouillonnante, ça explique en grande partie l'atmosphère de la maison familiale. Le père tenait un magasin de musique en pleine campagne dromoise et ça voyait parfois s'arrêter des musiciens américains en tournée.
Il met chercher du matos.
Ouais, imagine le décalage.
Le choc devait être magistral. Ils entrent dans une petite boutique de province, ils s'attendaient à une ambiance hyper tranquille, et ils tombent sur cette famille française qui balance des standards de jazz ultra complexes.
Avec des harmonies parfaites et un groove implacable en plein milieu de la France.
C'est génial.
Ce terreau musical improbable l'avait déjà préparé pour la suite. Quand il a finalement fait le grand saut vers les États-Unis, sa maîtrise a tout de suite attiré l'attention.
Surtout sa rencontre avec le saxophoniste Charles Lloyd.
Qui a agi comme un vrai catalyseur.
Absolument. Ça l'a propulsé sur les scènes internationales, ce qui l'a mené à une consécration historique, la signature sur le mythique label américain Blue Note. Le rêve par excellence pour tout jazzman. D'ailleurs, cette volonté d'indépendance qu'il affichait enfant explique son départ quelques années plus tard. Quand le label s'est mis à signer plein d'autres artistes européens, il a juste refusé de se fondre dans la masse.
Il disait préférer être un grand poisson dans un petit bocal, ce qui l'a poussé à rejoindre Dreyfus Jazz.
Ce refus absolu du compromis, on le retrouve vraiment au cœur de sa philosophie musicale.
Oui, fortement influencé par des géants comme Miles Davis ou Bill Evans, il avait cette conviction profonde qu'il n'y a pas de fausses notes en jazz. Il estimait qu'il n'y a que de mauvaises notes.
Autrement dit, les notes dénuées d'honnêteté, celles qu'on joue par pure facilité technique ou par réflexe quand on manque de véritables idées.
La distinction change tout. Ses pairs décrivaient souvent son jeu comme jaillissant directement de son chi, de son ventre, quoi.
Une énergie vitale qui emportait tout sur son passage.
Exactement, un optimisme radieux qui a su subjuguer autant les puristes que le grand public.
Et c'est une approche qu'on peut transposer bien au-delà de la musique. Savoir privilégier l'intention et l'authenticité plutôt que la perfection technique froide. Petrucciani nous prouve que la virtuosité ne sert à rien si elle n'est pas au service exclusif de l'émotion.
Une leçon qui prend une dimension encore plus vertigineuse quand on découvre un peu l'envers du décor. Le dossier révèle une habitude très tenace et méconnue.
Ah oui, les enregistrements.
Voilà. Depuis l'enfance et jusqu'à la fin de sa vie, il s'enregistrait quasi systématiquement. Il écoutait ses propres concerts au quotidien avec une exigence impitoyable.
Il décortiquait la moindre de ses interventions. Et ce qui remet pas mal de choses en perspective finalement. On célèbre souvent le mythe du génie jazzman au swing instinctif, porté par une joie de vivre communicative.
Mais derrière ce naturel apparent se cachait une discipline de fer totalement secrète et obsessionnelle.
Ça laisse une réflexion fascinante en suspens pour ceux qui nous écoutent.
Tout à fait. Est-ce que ce qu'on perçoit comme la liberté totale et la spontanéité absolue n'est finalement que le résultat d'une exigence implacable envers soi-même ?
Le véritable prix de la liberté musicale se cache peut-être justement dans cette discipline invisible. C'est une excellente question sur laquelle méditer. Thank you.